Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. À tout de suite.
Bonjour, je suis Thomas Soulier, chef adjoint du service politique de BFM TV. C'est le nouveau feuilleton politique à suspense. À l'Assemblée, les députés s'emparent du projet de loi immigration, des oppositions imprévisibles, une majorité à cran et un ministre qui joue gros. Voilà pour les acteurs du dossier. Le gouvernement va-t-il maintenant passer en force et va-t-il devoir dégainer un nouveau 49-3? Perrine Vasque et Alexis Cuvillier vous racontent les coulisses de cette loi explosive. Bienvenue dans le service politique. J'ai face à moi les deux experts de la loi immigration. Ça vous met un petit peu de pression avant que ça démarre. Alexis, lève les yeux au ciel. Salut Alexis.
Salut Thomas.
Alexis Cuvillier qui
ça
suit
va un peu loin, là, ouais,
les Républicains. On va voir, parce que les Républicains sont encore les faiseurs de roi sur cette loi immigration. Salut Perrine.
Salut Thomas.
Perrine Vasque qui passe ses journées, ses nuits, ses week-ends au Parlement. Et donc, elle veut nous raconter les coulisses avant cette arrivée de la loi immigration à l'Assemblée. Perrine, d'abord, on va essayer d'être le plus pédago possible. On en est où de l'examen du projet de loi immigration? Il y a eu du Sénat, il y a eu l'Assemblée, on en est où?
Alors, le projet de loi immigration, il est d'abord passé au Sénat. C'était une volonté du ministre de l'Intérieur parce que le Sénat majorité à droite, il se doutait qu'il allait plus facilement voter. On s'est rendu compte que ça n'a pas été si facile que ça pouvait être vu sur le papier,
ouais.
Et qu'il y a eu quand même beaucoup d'accrocs et des jours et des journées d'accord pour trouver un texte qui mettait tout le Sénat d'accord, notamment les Républicains et les centristes.
Donc, le texte a été voté au Sénat.
Donc, il a été voté au Sénat.
Dans une version durcie,
on
peut dire comme ça.
Exactement. De régularisation des travailleurs, mais un droit de... Enfin, en tout cas, les préfets peuvent en régulariser certains s'ils le souhaitent. Voilà. Donc, cette version du texte, elle arrive à l'Assemblée.
D'abord en commission.
Voilà. Avant de débouler dans l'hémicycle avec tout le spectacle que ça va nous réserver, eh bien, ça va être plutôt, pas en huis clos parce que la presse sera invitée, mais en commission des lois pour au moins une semaine.
Ouais, ouais. Au moins donc au week-end compris.
Voilà.
Et Gérald Darmanin ira tous les jours. Ça, c'est rare, hein, Perrine, qui suit les commissions, qu'un ministre y aille tout le temps, jour et nuit.
Moi, depuis que je suis le Parlement, je n'ai jamais vu ça, même pendant les retraites. Pour la commission des affaires sociales, je ne voyais pas le ministre tous les jours. Ça veut dire, ça prouve à quel point Gérald Darmanin tient à son texte, va essayer de convaincre tout le monde. Et ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup du côté du gouvernement, notamment de Franck Riester, qui est le ministre, il faut peut-être encore le présenter quand même.
Chargé des relations avec le Parlement.
Voilà.
Il faut présenter beaucoup de gens dans ce gouvernement, je te rassure.
Et en fait, Franck Riester nous disait à quel point il avait trouvé Gérald Darmanin extrêmement percutant au Sénat, qui répondait à tout, il connaît son texte par cœur et qu'il avait réussi à convaincre des gens qui n'étaient pas d'accord. Et là, il va y avoir du boulot.
Et justement, Alexis, je vais jouer au naïf. Les Républicains ont adopté le texte au Sénat. Ça arrive à l'Assemblée, donc les Républicains vont voter le texte à l'Assemblée.
C'est beaucoup plus compliqué que ça, Thomas, en effet. Comment simplifier les choses? D'un côté, il y a une majorité sénatoriale qui a essayé de faire évoluer le texte dans le sens de la droite, incarnée notamment, bien sûr, par Bruno Retailleau du côté du Sénat. Sauf que au Sénat, il y a une difficulté majeure, c'est que on dit beaucoup que ce sont les Républicains qui ont le pouvoir, mais c'est plus compliqué que ça. Le Sénat repose en fait sur une majorité qui est très ouverte à toutes les droites, et notamment le centre-droit, l'UDI, incarné par Hervé Marseille, le truculent président du groupe de l'Union centriste au Sénat, qui lui est parfois plus accommodant avec le gouvernement et qui voulait donc faire évoluer le texte, mais que ça convienne aussi à ses troupes. Donc, certains Républicains Républicains estiment que Bruno Retailleau, il a dû faire des concessions assez centristes et donc, in fine, des concessions aussi au gouvernement. Ça, c'est du côté du Sénat. Ça veut dire que le texte qui arrive du côté de l'Assemblée, certes, les Républicains au Sénat y ont mis leur empreinte, mais il ne convient pas forcément complètement aux Républicains de l'Assemblée nationale. Et surtout, les Républicains de l'Assemblée nationale, ils vont beaucoup surveiller la façon dont le texte va ressortir de commission. S'il est trop teinté de concessions qui sont accordées en commission par la majorité, à la majorité,
notamment
pardon.
L'aile gauche de la majorité.
Voilà, ouais. Si du coup le texte, si on simplifie, si le texte est trop gauchisé, entre guillemets, eh bien ça ne conviendra plus aux Républicains de l'Assemblée. Et à ce moment-là, on se dirige peut-être vers des semaines compliquées pour le gouvernement.
Alors, on disait sur les retraites, quand on a suivi cela, que c'est un peu le nouveau feuilleton politique, c'est le remake des retraites avec les mêmes acteurs, la même scène, le même suspense. Alexis, est-ce que comme les retraites, les Républicains sont une nouvelle fois les faiseurs de rois pour faire adopter ce texte.
Ce qui est certain, c'est que dans l'esprit de Gérald Darmanin, la solution la plus facile et celle qui garantit un succès à la fin, ce serait que, en effet, une fois encore, les Républicains soient une force d'appoint pour ce texte. Sauf que du côté des ténors, de l'entourage notamment des ténors des Républicains, tout le monde a bien en tête ce qui s'est passé au moment des retraites, à savoir que, eh bien, c'est vrai, les LR étaient prêts à soutenir le texte, et d'ailleurs, ouais, certains l'exprimaient, ouais, mais on sait comment ça s'est terminé. C'est-à-dire qu'à la fin, les Républicains n'ont pas été en mesure de consolider leur soutien.
Donc, ils sont imprévisibles, c'est un peu des auto-entrepreneurs, comme on dit souvent à l'Assemblée.
Ils ont été totalement imprévisibles, ouais, sur ce moment. Donc là, c'est une donnée que le gouvernement a cette fois bien en tête. Ce qui est un petit peu différent cette fois-ci, c'est qu'on sent que le groupe LR à l'Assemblée est tout de même moins divisé qu'au moment des retraites et que, je dis bien officiellement, ouais, sur, ouais, le papier, il faut toujours se méfier, ouais, des surprises, officiellement, il n'y a pas énormément de parlementaires républicains qui sont prêts à soutenir le texte.
Perrine, qui va voter quoi à la fin?
Honnêtement, moi je ne sais pas comment ce texte passe. 149-3, très sincèrement. Okay. J'ai encore fait les comptes, ouais, ce matin. La majorité présidentielle semble unie. Cette fameuse aile gauche dont on parle beaucoup, elle semble très peu nombreuse, menée par Sacha Houillé qui sera à côté de Gérald Darmanin pendant que le texte sera en commission, puisqu'il est président de la commission des lois. Donc lui, il est réputé en étant de l'aile gauche. Mais Sacha Houillé, on l'entend plus beaucoup depuis quelques mois.
On dit qu'il y a une forme de deal entre Sacha Houillé et Gérald Darmanin et qu'à la fin, l'aile gauche n'embêtera pas trop, ouais, le ministre. C'est ça ?
Exactement. D'accord. Et on nous dit aussi que ça a été une demande du président de la République.
D'accord.
Donc, parce que ce texte est un marqueur.
Quasiment 250 voix, on va dire.
Oui, globalement, le texte, les députés de la majorité, s'ils arrivent, comme c'est prévu, à faire revenir le texte, pas dans sa forme initiale, mais un entre-deux avec la version du Sénat, ça passe.
Mais donc, là, il manque 40 voix.
Voilà.
On les trouve où, ces 40 voix ?
Eh bien, le gouvernement, en tout cas la majorité, nous parlait beaucoup cette semaine du groupe Liotte.
Ouais.
Qui a une grosse vingaine de députés, voilà, un groupe centriste avec beaucoup d'ultramarins, des députés corses,
qui, eux,
etc.
voulaient faire tomber le gouvernement sur les retraites.
Exactement.
Bon, okay.
Là, sur le texte de la réforme des retraites, ce groupe Liotte, qui peut être un groupe, ouais, pivot, et d'ailleurs qui a été très traité par Gérald, ouais, Darmanin, comme on dit, qui est allé dans ses journées parlementaires en Outre-mer pour, ouais, pour les voir, eh bien, ce groupe, il semblait plutôt favorable à la version initiale du texte, c'est-à-dire quelque chose de plus équilibré,
d'accord,
avec ce fameux article 3 sur la régularisation. Voilà. Sauf que moi, ce que j'entendais à l'Assemblée ces derniers jours,
ouais,
c'était moins catégoriquement « on vote pour » que ce que le gouvernement et la majorité nous disaient. Donc j'ai passé quelques coups de fil ce matin et en effet, du côté du groupe Liotte, on me confirme que c'est plus compliqué que ça, qu'ils vont vraiment attendre ce que va donner le texte en commission, mais qu'aujourd'hui, globalement, un membre du groupe me disait « moi, je ne vois qu'une quinzaine de députés aujourd'hui qui pourraient voter pour ».
Donc 15, il en manque encore 25 voix.
Exactement.
Et ces 25, on les trouve où ?
Alors, il y a un autre groupe qui peut être faiseur de roi, qui n'était pas faiseur de roi au moment,
ouais,
des retraites,
mmh,
c'est le Rassemblement National.
Mmh.
Que va faire le Rassemblement National ? Le gouvernement compte sur une abstention du groupe Rassemblement National, ouais, dans sa majorité, pour faire baisser justement le niveau et le nombre de députés qu'il faut pour un vote oui. Voilà, pour faire baisser la majorité, en gros. Bon, c'est un peu technique, mais... Sauf que le problème, c'est que pour arriver à une abstention du Rassemblement National, ouais, ouais, il faut quand même un texte assez dur, ouais, à droite. Ouais.
Le texte initial, quoi, voilà, texte du Sénat, pas, le texte du Sénat, excuse-moi, oui.
Là, on s'oriente plutôt un texte remanié, ouais, un peu plus à gauche, ouais, par la majorité, donc qui voterait contre.
Et pourquoi il ferait ce cadeau politique à Gérald Darmanin ? Pour le piéger ? Pour dire le texte a été adopté,
non,
c'est ça ?
Non, c'est que je pense qu'ils veulent, ils veulent apparaître un peu plus cohérents que les Républicains.
D'accord.
En disant, nous, un texte, ouais, d'immigration, ouais, même si ça ne va pas assez loin, il y a déjà, mmh, des avancées, donc on ne va pas s'opposer. Sauf s'il y a ce fameux article sur régularisation.
Sur le sujet de la cohérence, Perrine, elle a dit un truc très important par rapport aux Républicains. Qu'est-ce qui se passe, et certains au sein des Républicains sont en train d'anticiper un peu ce scénario, qu'est-ce qui se passe si en fait le texte n'est pas si gauchisé qu'on le disait, mmh. C'est-à-dire si l'aile gauche de la majorité en fait s'est tue pendant les débats et a laissé, à quelques exceptions près, une version du texte, d'accord, qui est proche de celle qui a été adoptée, ouais, par LR au Sénat.
Ça les bloque.
Ça sera beaucoup,
ça les
plus difficile, ouais, pour les Républicains de tenir une position d'opposition très ferme. Et à ce moment-là, il y a fort à parier que le nombre de frondeurs au sein de LR sur ce texte, qu'on estime autour d'une dizaine, eh bien, la barre, elle pourrait peut-être augmenter si, à ce moment-là, certains se rendent compte qu'en fait, le texte, il n'est pas si infréquentable que ça, pour reprendre le terme d'un parlementaire à qui je parlais cette semaine.
Et c'est tout à fait, d'ailleurs, pour reprendre ce que, ouais, Alexis, c'est tout à fait sur ce sur quoi compte Gérald Darmanin. Et c'est pour ça qu'il va être tous les jours en commission, pour appuyer systématiquement
les demandes
sur les articles du texte qui durcissent la législation.
Mais j'entends ce que vous dites. Donc, en l'état, ça ne passe pas. Même si ça passe à quelques voix près, donc on imagine que le gouvernement ne va pas prendre de risque à avoir un vote contre. Et justement, sur la réforme des retraites, certains disaient on aurait dû aller au vote, prendre un risque, et au pire, ça ne passait pas. Mais c'est moins pire le vote contre la loi qu'en 49-3. Et cette fois-ci, Perrine, est-ce que l'exécutif serait prêt à aller au vote, à prendre un risque et avoir un vote contre et éviter ainsi un 49-3? Parce qu'on entend beaucoup Gérald Darmanin dire « je ne veux pas du 49-3 », Elisabeth Borne dire officiellement « je ne veux pas d'un 49-3 ».
Oui, il y a des gens, il y a des ministres au sein du gouvernement qui sont plutôt sur cette ligne, c'est-à-dire, ouais, on perd le vote en première lecture, les textes c'est un peu long, on repart au Sénat, il revient à l'Assemblée, on aura une deuxième lecture, on se met d'accord avec le Sénat, ce sera moins crispé dans l'opinion, et à ce moment-là on tombe sur un accord. Certains ministres disent ça et sont prêts à prendre le risque, mais Gérald Darmanin, il joue gros sur ce texte, il vise Matignon, pour lui il faut qu'il y ait un vote. Sauf que moi, je pense que ce 49-3-là, il sera moins compliqué à gérer pour l'exécutif que celui des retraites, même si ça le bloque, il ne pourra plus en faire jusqu'à juillet. Mais parce que l'opinion publique, globalement, elle est favorable à ce texte.
Oui. Les mesures sont plébiscitées dans les sondages.
Exactement.
Par les Français.
Donc, si les Républicains décident, ça va être vraiment une bataille politique. Les Français n'auront pas les yeux sur tel article, dans le détail du texte, et ne comprendront pas, à mon sens, la position des Républicains, parce que le gouvernement saura faire sa communication pour dire que c'est un texte qui durcit dans sa grande majorité. Donc, ce 49-3, il peut être moins catastrophique dans l'opinion que celui des retraites.
T'es d'accord avec ça, Alexis ?
Oui, il y a de toute façon pour les Républicains une question maintenant de survie. On voyait au début de la pré-campagne pour les européennes qui s'approchent là, qui sont au mois de juin, on voyait qu'il y avait des sondages pour les Républicains qui étaient plutôt rassurants. Franchement, les dernières études, c'est plutôt le contraire. Ouais. C'est plutôt franchement à la baisse. Il y a beaucoup de questions sur la position du parti pour ces prochaines élections. Il y a bien sûr déjà en tête les échéances prochaines. Et dans l'entourage d'Éric Ciotti, quelqu'un disait en fait, si on apparaît en soutien à ce texte que porte la majorité et que porte le gouvernement, on saura nous dire dans 2-3 ans sur ce sujet très complexe de l'immigration que tout n'aura pas été réglé. Ce sera notamment des attaques évidemment du côté du Rassemblement National, on l'imagine. Et à ce moment-là, nous, on nous dira, eh bien voilà, les Républicains, vous n'avez pas tout réglé et vous étiez aux côtés éventuellement d'Emmanuel Macron si d'aventure il choisissait finalement de voter le texte. Ce qui les enfermerait dans un positionnement, une fois encore,
une posture politique d'être l'opposant à Emmanuel Macron.
Il y a la volonté, en tout cas, de réaffirmer cette opposition à Emmanuel Macron, contrairement à ce qui était visible au moment des retraites, évidemment, parce que là, sur les retraites, il y avait une question de cohérence, finalement, de fond par rapport à des propositions qu'avaient pu porter les Républicains, notamment au moment de la présidentielle. Là, cette fois, on sait que la grande proposition des Républicains, à savoir une révision constitutionnelle sur ce sujet, Emmanuel Macron ne les suit pas là-dessus. Donc, il y a quelque part cette possibilité pour eux de pointer ce point-là pour justifier leur opposition éventuellement jusqu'au bout. Et on le sent d'ailleurs très fort dans le discours d'Éric Ciotti ces dernières semaines. Il s'est raidi d'une certaine façon. Il n'a pas participé aux rencontres de Saint-Denis il y a quelques jours. Il se montre beaucoup plus ferme qu'il n'avait pu l'être, notamment au début du deuxième quinquennat.
Il a clairement durci le ton, ce qui a inquiété Gérald Darmanin. Gérald Darmanin était à un dîner à l'Élysée durant les discussions au Sénat. Et il a dit à huis clos face à Emmanuel Macron, en clair, je ne suis pas inquiet pour l'Assemblée. Ils vont s'abstenir, les Républicains. Et par conséquent, c'est ce que t'expliquait Perrine, ça passera. Et là, on sent depuis quelques jours que les LR durcit le ton. On en revient à l'exécutif. Une autre musique qui revient, même dans l'entourage de Gérald Darmanin, c'est de dire, est-ce qu'Elisabeth Borne, on sait les relations avec Gérald Darmanin qui sont très très tendues, ne va pas dégainer 49-3 juste pour embêter Gérald Darmanin. En fait, est-ce que Borne va faire à Darmanin ce qu'à l'époque Valls avait fait à Macron, sa loi Macron, ou selon Macron, ça passait à quelques voix près sa loi en 2016, et que Valls a dit non, 49-3, bam. Ce qui avait affaibli vraiment Emmanuel Macron. Est-ce que tu penses, Perrine, que Elisabeth Borne peut dégainer 49-3 seulement pour embêter Gérald Darmanin?
Ben moi, je pense surtout que le 49-3, je ne sais pas comment on y échappe, si tu veux. Donc, est-ce que ce serait juste pour embêter Gérald Darmanin? Je ne sais pas.
Une raison de plus, quoi.
Ça peut être une excuse. Après, ce qui est certain, c'est que le ministre de l'Intérieur s'est vraiment donné beaucoup de mal. Et d'ailleurs, les députés me le disent, même de l'opposition. Liotte, dont on parlait tout à l'heure, ce petit groupe centriste, me disait encore ce matin, le ministre de l'Intérieur, on discute beaucoup avec lui, il est très ouvert, ça fait du bien de faire de la politique de temps en temps dans ce gouvernement. Donc, il s'est donné énormément de mal. Au Sénat, il était tout le temps sur les bancs. D'ailleurs, on n'a plus jamais revu Olivier Dussopt, qui quand même co-portait ce texte au tout départ avec lui, pour montrer que c'est plutôt un texte ferme qu'un texte de...
Et Olivier Dussopt a expliqué qu'en fait, il préférait que ce soit Gérald Darmanin qui soit en première ligne, parce que lui a pris aussi beaucoup de coups sur la réforme des retraites.
Je pense qu'effectivement, il ne s'est toujours pas remis de cette séquence. Et en fait... Effectivement, Gérald Darmanin s'est donné tellement de mal, s'est tellement investi, qu'on ne pourra voir qu'un échec dans sa stratégie politique s'il y avait un 49-3. Ouais. Mais même si on peut se dire qu'effectivement, alors moi j'entends beaucoup dans la majorité, mais alors là, tous les jours, des députés de la majorité qui me disent « il faut un nouveau souffle, il faut qu'Elisabeth Borne s'en aille », et les noms qui reviennent systématiquement pour la remplacer, c'est soit Gérald Darmanin, soit Sébastien Lecornu, deux ministres qui viennent de la droite. Donc, il joue gros, Gérald Darmanin, là. Mais même sans entourloupe politique, moi, sincèrement, j'ai beaucoup de mal à voir comment ce texte passe.
Mais Alexis Cuvillier, Elisabeth Borne, elle a tout à perdre, parce que imaginons, je vous fais tout le scénario. Et en 49-3, bon, ça l'affaiblit parce que c'est elle qui va monter à la tribune de l'Assemblée pour dire « je dégaine un 49-3 ». C'est elle qui est en première ligne. Soit il y a un vote négatif et franchement, le gouvernement est dont elle est affaiblie. Soit il y a un vote positif, ça ne sera pas sa victoire. Ça sera celle de Gérald Darmanin. Donc on se dit, dans l'histoire, c'est quoi le scénario le moins pire pour elle ?
Difficile vraiment de répondre à cette question. Elle risque de toute façon sa place dans ce
quoi
scénario.
Qu'il se passe, en fait.
Quoi qu'il se passe, quelque part. La question de la motion de censure, c'est une vraie question qui va se poser
Les Républicains. Si en 49-3, après, la question sera la suivante, et on va finir par cela. Est-ce que les Républicains vont, oui ou non, déposer une motion de censure, donc pour faire tomber le gouvernement?
Voilà, là, ça sera vraiment la vraie question, in fine, à l'issue de cette séquence. Est-ce que les Républicains seront suffisamment nombreux à eux seuls pour déposer une motion de censure? Il faut 58 députés pour la signer.
Et ils sont 62 dans l'hémicycle.
Et ils sont 62 Républicains dans l'hémicycle. Selon toute vraisemblance, d'après les informations qu'on a, les 58 juste chez les Républicains, ils ne les auront pas, parce qu'il y a cette dizaine, quinzaine de députés qui est présenté comme plus...
Macron compatible, on va dire.
Voilà. Exactement, pour simplifier. Donc ça veut dire éventuellement essayer de bricoler une motion de censure commune avec d'autres groupes, ce qui n'est pas complètement impossible. On pense par exemple aux Liottes dont Perrine parlait tout à l'heure. Est-ce que c'est vraiment l'intérêt de, des Républicains, forcément je pense à eux parce que je leur parle assez régulièrement, est-ce que c'est forcément leur intérêt à eux de faire tomber le gouvernement? On entend que certains...
Sur un texte immigration. Ah oui.
On entend que certains parfois disent oui, mais bon, il y a un moment, par rapport à ce que je te disais à l'instant sur la, le côté opposition, il y a un moment, faut qu'on assume, faut y aller, et faut peut-être le tenter. Comment ça se passe pour eux s'il y a des législatives anticipées? Là, bon, on fait un peu de politique fiction, ouais, mais c'est franchement, c'est quelque chose qui compte. Ils y pensent.
Et Perrine, imaginons.
Ce ne sera pas facile.
Imaginons, mais bon, ils arrivent à la déposer. On ne sait pas trop comment, mais imaginons.
Liotte me disait à peine un ou deux députés chez eux qui pourraient la voter, donc ça semble quand même compliqué.
Et voilà. Donc, elle est déposée. Et après, est-ce qu'elle peut être votée? Parce que j'ai entendu Olivier Faure du PS dire on ne la votera pas, nous.
Non, alors Olivier Faure dit en effet qu'ils ne la voteront pas. Donc déjà, bah, en fait, ça semble compliqué si vous avez une trentaine de députés qui ne la votent pas.
Député PS.
PS. Du côté des LFI, alors on est en train de réfléchir du côté de la France Insoumise. Moi, j'ai vu Éric Coquerel récemment qui me disait que lui, à titre personnel, il serait prêt à la voter, pour quelque chose de simple, sa défense pour voter un texte de droite qui, pour faire tomber le gouvernement sur un texte d'immigration, sa défense était de dire on ne veut pas de ce texte, donc ce sera une façon de faire tomber le texte avant. Okay. Mais il me disait, c'est une position personnelle, il faut qu'on en discute avec le groupe. Donc c'est déjà des discussions
qui sont entamées,
auxquelles les groupes pensent. Mais là encore, ça semble très compliqué. Donc, je ne pense pas qu'Elisabeth Borne joue sa place sur cette motion de censure. Et moi, je pense encore une fois que, quand tu disais quel est le pire scénario pour elle, moi, je pense que le pire scénario pour elle, c'est que ce texte soit voté par Gérald Darmanin. Parce que qu'elle monte à la tribune pour dégainer un 49-3, encore une fois, sur un texte dont veulent les Français, je ne suis pas sûre que ce soit mis à son... à son débit.
Ouais,
ce sera plutôt peut-être un crédit pour elle.
Donc vous voyez que ça va être passionnant parce qu'on va avoir la commission, est-ce qu'il y aura un vote, est-ce qu'il y aura un 49-3 motion de censure. Donc on va évidemment en reparler, on finit toujours par des pronos. Alexis adore ça. Bon, sachez d'abord qu'on va refaire les compteurs à l'air, Alexis, je suis désolé, mais on
va falloir que je m'y remette.
On va rappeler 62, qu'est-ce qu'ils vont voter, tout ça, ça va nous demander beaucoup de travail. Non, est-ce que vous pensez, oui ou non, qu'il y aura un 49-3? Toi tu dis oui, Perrine, j'ai compris. Toi Alexis? Ah non, on commence pas de c'est compliqué, mais non.
Ah, j'ai envie de faire une réponse comme
ça.
Une fois dans l'année, je peux pas.
Ça fait 12 fois, j'ai compté.
En fait, il y a autant
de motions de censure que de langue de bois de Alexis Cuvillier.
Moi, je suis un peu interpellé par le scénario dont on parlait tout à l'heure, à savoir le piège éventuel qui peut se dessiner là dans les prochains jours, à savoir qu'en fait, le texte qui sort de commission, est-ce que les Républicains pourront s'y opposer?
Donc ça passe, il y a un vote.
Je pense qu'il faut s'attendre à ce qu'il y ait des surprises.
Il ne va pas nous répondre, c'est insupportable. Non mais oui ou non, il y aura un 49-3
Alexis Cuvillier. Les hommes n'ont pas de courage.
Je manque un peu de courage. Allez, je vais être joueur, je vais dire l'opposé de ce que Perrine a dit.
Voilà.
Mais en vrai, il a raison. De toute façon, on ne sait pas, parce qu'on ne sait pas quel texte va sortir de cette commission.
C'est énorme, ça va être passionnant. Voilà.
Donc vous nous demandez, Thomas Soulier, beaucoup trop tôt, donc il faut nous positionner.
Me tutoie, me vouvoie dans le même podcast, on ne sait plus où on est. Quoi. Merci à vous deux et bon courage pour les prochaines semaines.
Merci.
Merci.
Vous l'avez compris, il y aura de nouveaux podcasts sur la loi immigration parce que c'est clairement la série de l'hiver. La semaine prochaine, en revanche, on va s'intéresser à Éric Dupond-Moretti. C'est l'heure du verdict pour le garde des Sceaux. Va-t-il rester oui ou non au gouvernement? D'ici là, n'hésitez pas à commenter, à mettre des cœurs. On vous lit. Merci beaucoup pour votre fidélité. Merci également à Eva et à Alex pour la réalisation. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro.